Je vais essayer de trouver la fin de cette phrase.
Bonjour à toutes et à tous. Cet épisode de Comme de lecteur est réalisé en collaboration avec Le Son du Ciné. Coucou Nils, coucou Axel, parce que on va parler de musique de film aujourd'hui. Mais pas n'importe quel film et pas n'importe quelle musique. Bienvenue dans l'univers sonore de Star Wars. Pour ce deuxième numéro spécial, on reçoit une autrice, Chloé Huvet, qui publie aux éditions Vrin, composée pour l'image à l'ère numérique, Star Wars, d'une trilogie à l'autre, et on reprend là où on s'était arrêté lors du dernier épisode, avec un concept important de ton livre, Chloé, l'écoute tendue vers le sonore. Alors, la dernière fois, on avait écouté la transformation d'Anakin en Dark Vador, transformation par la musique et par le son, comme tu le démontres très justement, mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres exemples de ce genre, ou alors un exemple de ce genre dans le cinéma hollywoodien ?
On trouve un très bel exemple dans la version longue du Retour du Roi, donc dernier volet du Seigneur des Anneaux, au moment où le roi sorcier d'Angmar s'apprête à terrasser Gandalf. Et son geste meurtrier, en fait, est littéralement suspendu par le son des corps du Rohan, donc qui arrive à la rescousse. Ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage donc, du roi sorcier d'Angmar, à ce moment-là, est filmé en gros plan. En situation d'écoute, en fait, il tourne la tête vers l'origine du son et son geste est vraiment littéralement suspendu. Et pendant quelques secondes, on a juste les résonances éclatantes de cette quinte de corps qui prend tout l'espace et qui arrête en fait momentanément l'action. You have failed. The world of men will fall.
Du silence qui forme un écrin autour de la respiration fameuse de Dark Vador dans la fin de La Revanche des Sith. Et justement, ton livre se termine sur des analyses extrêmement pertinentes du rôle du silence dans Star Wars, et qui est bien plus présent que ce qu'on aurait pu le croire, et également bien plus signifiant. Est-ce que tu peux nous parler de scènes non musicalisées dans Star Wars et de ce qu'elles représentent ?
Effectivement, une des premières formes de silence inattendue dans Star Wars, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de silence musical, parce que ce sont des films où la musique est extrêmement présente. Hein. La musique couvre facilement 80% des films, donc elle est très très dense. Et les moments où il n'y en a pas, du coup, sont d'autant plus marquants. Et ces scènes non musicalisées, en fait, sont présentes dans un certain nombre d'épisodes, dans Le Retour du Jedi, par exemple, la poursuite à moto dans la forêt d'Andorre. Il y a également la scène de course de module dans La Menace Fantôme, qui dure une dizaine de minutes, donc qui est beaucoup plus longue. Ces séquences non musicalisées sont prévues, en fait, très tôt, en amont, par Lucas, par le sound designer, avec l'accord de John Williams. Donc il n'y a pas de musique composée, vraiment, c'est pas comme si la musique avait été retirée après coup. Ce sont vraiment des séquences qui sont conçues un petit peu comme des sortes de compositions électroacoustiques abstraites qui vont laisser le champ libre au sound designer d'exprimer toute sa créativité, puisque en l'absence de paroles, en l'absence de musique, eh bien, le monde sonore entier de ces séquences est à construire, est à imaginer. Et à ce moment-là, on peut considérer que dans ces séquences, les objets sonores qui vont être inventés, qui vont être conçus par Burt et son équipe, sont vraiment des objets musicaux en fait en eux-mêmes. Et c'est là-dessus aussi que j'insiste sur la dimension musicale des effets sonores. Alors dans la séquence des motojets là du Retour du Jedi, Ben Burt a essayé de mettre l'accent sur la vélocité, sur le dynamisme et sur l'individualité des sons. Jam their comm link, center switch! Move closer! Get alongside that one!
Yeah.
il y a aussi des effets sonores qui sont parfois faits à partir de silence. Il y en a un qui est assez célèbre dans Star Wars.
Il y a une scène très frappante dans l'attaque des clones où Ben Burtt va créer ce qu'il appelle un trou noir audio. Donc c'est la scène de course-poursuite dans le champ d'astéroïdes opposant les Fett à Obi-Wan. Pour se débarrasser du Jedi, Jango Fett va larguer deux bombes sismiques qui vont avoir la particularité d'être accompagnées par un objet sonore en deux temps. Cet objet sonore est d'abord du silence, et du silence pur, ce qui est quand même une rareté dans le cinéma hollywoodien. Et ce silence pur est suivi ensuite, avec un petit peu de latence, du son de la déflagration en tant que telle. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement cet objet sonore est donc articulé autour du silence, qui est vraiment une des composantes de cet effet sonore, mais aussi il y a une dissociation qui s'opère entre le son et le visuel, puisque au moment où la bombe se déclenche, eh bien, on n'entend rien. Et le son vient seulement après, ce qui va aussi à l'encontre d'un certain nombre de traditions assez tenaces au cinéma, qui veut par exemple qu'on entende toujours le tonnerre en même temps que l'éclair luit dans les séquences d'orage. Pour les scènes d'explosion, c'est généralement la même chose. Quand la bombe se déclenche, on a toujours un son très très puissant qui va avec. Or ici, donc, Ben Burtt préférait avoir cette idée de trou noir audio, en fait, d'une bombe qui était tellement puissante qu'elle absorbait tous les sons avant de tout relâcher. Et donc, en fait, cet objet sonore a été tellement novateur que personne n'a été pour au départ. Il a dû vraiment lutter avec Lucas et aussi avec les autres membres de son équipe. Le seul qui a été pour, c'est Gary Ridsdrum, le sound designer attitré de Steven Spielberg. Seismic charges. Stand by.
C'est assez paradoxal parce que j'ai le souvenir d'avoir vu un certain nombre de fois cet épisode de Star Wars en version française, et les bombes sismiques ont été traduites par les charges soniques. Donc il y a une espèce de contresens où on réintroduit la notion de sonore par la traduction française.
Les charges soniques, tiens-toi prêt.
Et c'est assez curieux parce que c'est en fait finalement le seul moment où le son est traité avec un certain réalisme dans Star Wars. Donc en fait on rompt avec une tradition de mise en son de ce qui se passe dans l'espace et d'introduction du réalisme, du réel dans Star Wars.
Tout à fait, en fait ça rompt avec les conventions du genre du space opéra, parce que par exemple si on se base du point de vue de 2001 l'Odyssée de l'espace qu'on évoquait tout à l'heure, au contraire Kubrick avait fait le choix de n'avoir aucun son dans l'espace. Donc voilà, c'est vrai que Star Wars s'inscrivait dans cette tradition des épopées spatiales épiques et qui nécessitait une musique pour soutenir l'histoire. Ici effectivement tout d'un coup c'est comme si, ça crée un effet d'autant plus vertigineux que c'est comme si on entendait ce silence de l'espace tout d'un coup qui véhicule un certain nombre d'imaginaires assez terrifiants. On songe à l'accroche du film Alien, hein. Dans l'espace personne ne vous entend crier. Et ici en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que cet objet sonore qu'est la charge sismique montre que parfois, même dans un blockbuster très très dense, eh bien, le silence peut être aussi expressif, voire plus puissant que le son lui-même.
Alors pour terminer sur Star Wars, on va sortir un peu de... On va quitter un peu la zone de ton livre. Alors Jason, toi qui regardes Clone Wars en ce moment, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la musique? Moi qui n'ai jamais regardé un épisode, comment est-ce que la musique de cet univers étendu de Star Wars est traitée?
Justement, je voudrais poser la question à Chloé, parce que quand on observe la musique de l'univers étendu de Star Wars, on est confronté au fait que plein de gens ont dû créer de la musique n'étant pas eux-mêmes John Williams, ce qui pose un certain nombre de problèmes, et notamment sur Rogue One où plusieurs personnes ont été amenées à travailler, donc Desplat puis Giacchino. Je me posais une question sur le rapport de ces musiques à leur référence, c'est-à-dire celle de John Williams. Beaucoup de fans qui sont allés voir Rogue One ont été déçus par la musique composée en partie par Giacchino, en disant bah c'est pas du John Williams. Alors que paradoxalement, la série Clone Wars que je regardais en parallèle de la lecture de ton livre renvoie très très bien à cet univers, alors qu'elle a été composée par finalement des gens qui sont moins connus que Giacchino. Est-ce que finalement, pour faire une bonne musique de John Williams, c'est pas plus pertinent d'être un arrangeur avec une forte connaissance technique plutôt qu'un grand monde du cinéma hollywoodien ?
Ah, c'est une très bonne question. Alors moi, je connais pas forcément très bien l'univers étendu de Star Wars, donc je saurais pas te répondre. Mais en tout cas, sache que à l'université d'Evry, au mois de décembre, on organise un grand colloque en hommage à John Williams pour célébrer ses 90 ans. Et plusieurs communications sont dédiées justement à l'univers étendu de Star Wars. Et donc certainement, tu auras la réponse à ces questions à travers ces communications.
Ouais,
en revanche, peut-être ce que je peux ajouter de façon plus personnelle, c'est que on peut noter que dans Rogue One, John Williams n'est intervenu en aucune façon. En revanche, sur Solo, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il a peut-être été réintégré pour donner une légitimité supplémentaire à la partition en composant le thème de Han Solo. C'est ce qu'on observe aussi dans une certaine mesure avec la série Obi-Wan Kenobi, puisqu'on lui a confié aussi de créer le thème du personnage. Et après, on se retrouve quand même avec quelque chose d'assez... on parlait de Frankenstein tout à l'heure, d'assez frankensteinien aussi, où on a, dans les premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi, on entend en fait très très distinctement ce qui est de la plume de Williams et ce qui est de la compositrice...
Thank you.
Et pour Solo, je l'ignorais. Et c'est tout à fait intéressant parce que j'en avais pas entendu parler. J'étais même passé à côté du film. Et j'ai découvert récemment que c'est John Powell, c'est ça, qui a, fait, oui. qui a écrit la musique. Tandis qu'effectivement, pour la série de Disney+, il y a eu énormément de communication à ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, normalement, notamment et sur Twitter. Et j'y vois, pour être un peu critique, quelque chose de très paternaliste. C'est-à-dire qu'il y a John Williams, qui est le compositeur d'Hollywood, le compositeur de cinéma, qui fournit un thème à la compositrice de séries télévisées. Elle a composé la musique de Loki auparavant. Et ça donne l'impression que la musique de série télévisée est encore en quelque sorte dans les pas de la musique de film. Et c'est ce qui se passait aussi dans les années 1990, quand on demande à Jay Gruska, qui est un compositeur de série télévisée, d'écrire le thème d'ouverture de la série Lois et Clark. Eh ben, il explique lui-même en interview qu'il est pétrifié à l'idée d'écrire une musique pour Superman, parce que la musique de Superman, c'est John Williams. Et pour rester dans cette idée de paternalisme, je pense à la prochaine série Amazon, Le Seigneur des Anneaux. Qui va composer la musique ? Ramin Djawadi. Et de qui Ramin Djawadi va être accompagné ? Howard Shore. C'est-à-dire qu'ils vont composer la musique tous les deux. Comme si tout d'un coup... Alors certes, il y a la figure historique du grand compositeur, mais il y a un petit côté, je trouve, un peu condescendant derrière tout ça.
Oui, peut-être. Après, je ne sais pas, parce que tu parlais des séries télévisées, mais c'est, pour le coup, Solo, c'est un film en tant que tel. Oui. Et le processus a été le même avec John Powell, qui est quand même une figure assez installée hein, dans le paysage musical hollywoodien.
C'est vrai.
Je pense qu'il y a certainement la nécessité par rapport à voilà, la réception hein, qu'on évoquait, qui est souvent très mouvementée, surtout dans le cas d'univers comme ceux de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux, mais voilà, d'univers où il y a une forte appropriation et une nostalgie très forte chez les fans, peut-être la nécessité que le compositeur tutélaire garde un pied pour donner une identité sonore marquée et pour rassurer peut-être quelque part qu'on va rester quand même dans le même univers. Alors après, comme je disais, parfois ça marche plus ou moins bien. Je trouve que ça marche assez bien dans Solo, mais assez mal finalement dans la série Obi-Wan Kenobi, en tout cas dans les deux premiers épisodes.
Mais dans Solo, on entend Powell, on n'entend que Powell.
Oui, mais Powell, finalement, n'est pas si éloigné du style de John Williams. En fait, il s'est fondu dans le moule stylistique de Williams pour le film.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Chloé par rapport à, non pas au paternalisme, mais à simplement la paternité et l'importance de la paternité pour les fans, quand on sait que le reproche principal de nombreux fans à George Lucas, ça a été d'avoir vendu Star Wars à Disney, et ce que tous les fans disent, enfin ce que de nombreux fans disent, c'est Disney a tué Star Wars. Donc en fait, ça peut être aussi un argument pour rassurer un certain nombre de fans et les ramener dans le giron de l'univers Star Wars.
Oui, il est probable aussi que c'est peut-être un peu de tous ces arguments conjugués entre eux. Et qu'il n'y a pas une seule explication à tout ça.
En tout cas, disons, les mêmes remarques peuvent être faites aussi sur le travail sonore, hein, puisque Ben Burtt, en fait, a été un petit peu éjecté de Star Wars par Disney, puisqu'il a attendu qu'on l'appelle sur le réveil de la Force, et puis son téléphone n'a jamais sonné.
Le pauvre.
Donc voilà, il y a une volonté, je trouve, dans les premiers épisodes d'Obi-Wan Kenobi, de remettre vraiment tous les marqueurs sonores de la saga, donc le sabre laser, les chasseurs TIE associés à l'Empire, etc. Enfin, on a vraiment cette insistance sur les sons bien identifiés de l'univers Star Wars pour montrer que finalement tout ça est très cohérent, même si les créateurs originaux ne travaillent peut-être plus dessus.
Oui, mais c'est la volonté de cet univers étendu de créer une continuité propre à la série télévisée aussi.
Mmh, tout à fait.
Et c'est ça qui est intéressant, je trouve que c'est à travers justement des éléments qui sont des éléments non-verbaux qu'on arrive à recréer comme ça une sorte de continuité.
Tout à fait, et d'ailleurs c'est vraiment tout l'objet de mon livre, de montrer que finalement cet idéal de continuité, de cohérence intrinsèque échappe finalement quand on se penche vraiment en détail sur les partitions, sur les bandes sonores, on voit que les choses évoluent et que ces évolutions sont liées à un certain nombre de paramètres, que ça, c'est lié à l'évolution des scénario aussi sur la prélogie, c'est lié à l'évolution, à la position narrative de chaque épisode, puisque la particularité des épisodes républicains, c'est qu'ils vont amener Williams à composer à rebours, en quelque sorte, puisque l'action se passe avant les épisodes des années 70-80. Et puis, on a parlé, bien sûr, de l'impact des technologies numériques, donc tout ça doit être pris en compte, et on voit que cet idéal tient, en fait, d'une sorte de posture parfois un peu militante, mais que finalement les choses sont extrêmement complexes et c'est difficile de trancher vraiment dans un sens ou dans l'autre. J'essaye de montrer justement toutes les facettes que recouvre cette question très intéressante et complexe.
Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été avec nous, Chloé, pour cette nouvelle formule de Comme des lecteurs avec une autrice.
Merci beaucoup.
Merci, Jason, d'avoir lu et d'avoir parlé avec nous de la musique de Star Wars.
Avec grand plaisir.
Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux sociaux. À la prochaine.